Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la radio du Collège Anne-Franck. Aujourd'hui, les cinquièmes du groupe de Christine de Pison vont vous présenter le portrait de femmes célèbres. Elles ont travaillé à partir des livres Les Culottés, Pénélope Bageux a écrit et illustré leur histoire dans des bandes dessinées.
Rumen, Mathieu et Landreau ont simulé l'interview de Josefina van Cormune, une amoureuse têtue des Pays-Bas.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Josefina. Je suis née le 28 juin 1820 aux Pays-Bas.
Vous êtes mariée ?
Oui, je suis mariée avec Jacob, mais Jacob est catholique et moi protestante, ce qui rend les choses compliquées à cause de la pilarisation.
Jacob va nous rejoindre et nous expliquer ce que c'est la pilarisation.
La pilarisation, c'est quand tout est séparé. D'un côté, les protestants et de l'autre, les catholiques.
Quelle a été la plus grosse problématique ?
Les cimetières sont séparés, d'un côté protestant et de l'autre catholique.
Comment l'avez-vous résolu ?
Ils ont collé nos deux tombes contre le mur qui séparait le cimetière catholique du cimetière protestant. Une main relie nos deux tombeaux. On a voulu rester ensemble même après la mort.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous trois.
Pour la suite, Luna, Tessa, Médiné et Roman ont fait un dialogue avec Annette Kalerman, une sirène australienne.
Bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous poser des questions sur Annette Kalerman. De quelle maladie a-t-elle souffert ?
Elle a eu la polio, ce qui a entraîné l'affaiblissement des muscles de ses jambes.
Quel sport a-t-elle fait pour muscler ses jambes ?
On lui a conseillé de faire de la natation. Elle y prend goût et a guéri à 15 ans.
Qu'a-t-elle inventé en lien avec ce sport ?
Elle a bricolé pour confectionner un maillot de bain pratique pour les femmes. C'est un véritable succès, malgré les controverses qui la jugent indécente.
Mais alors, qu'avez-vous aimé chez cette héroïne ?
Son histoire est touchante.
Elle a pris le risque d'être mal vue pour créer le maillot de bain qu'on porte de nos jours.
Elle a encouragé les personnes qui souffrent de la polio.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
On espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à aller lire la BD.
Au revoir.
Merci à vous quatre.
Une autre femme célèbre est présentée par Julien, Hugo et Ruben. C'est Clémentine Delay, une femme à barbe française.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Clémentine Delay.
Si nous vous parlons de cette femme, c'est qu'elle a une barbe. Et oui, une jolie barbe.
Nous allons vous parler de sa vie.
En 1865, Clémentine Delay naît dans les Vosges. Elle est très costaude. Voilà qui est bien commode pour ses parents fermiers.
Mais à l'adolescence, elle découvre que des poils commencent à pousser sur son visage. Donc, elle commence à se raser.
Quelques temps plus tard, elle se marie avec Joseph, le boulanger de son village.
Malheureusement, son mari est pris par de gros rhumatismes.
Les Delay se reconvertissent et ouvrent un bar.
Un jour, alors qu'elle visite une foire, Clémentine se fait interpeller par une foraine qui a une barbe.
Depuis ce jour, Clémentine prend la décision de ne plus se raser le visage.
Rapidement submergée par sa renommée, Clémentine commence à vendre des photos d'elle avec succès.
Pour ses photos, elle obtient même le droit de s'habiller comme un homme, ce qui est totalement interdit à l'époque.
Durant la Première Guerre mondiale, Clémentine devient la mascotte des poilus.
Quelques temps plus tard, les Delay adoptent une orpheline de guerre et l'appellent Fernande.
Un jour, un directeur de cirque propose à Clémentine une somme d'argent colossale pour rejoindre son cirque. Elle refuse.
Clémentine est invitée chez toutes les grandes têtes d'Europe.
Hélas, quelques temps plus tard, Joseph connaît une fin brutale.
Veuve riche et célèbre, Clémentine ne sait pas quoi faire. Finalement, elle décide de revenir à ses origines et ouvre un bar dans les Vosges.
Clémentine finit donc sa vie à donner des représentations de cabaret avec Fernande et un perroquet.
Finalement, une crise cardiaque l'emporte et laisse derrière elle la vie qu'elle s'était choisie.
Au revoir et nous laissons la parole au prochain groupe.
Merci beaucoup.
Maintenant, Amy et Léa et Léana vont vous parler de Lema Boi, une travailleuse sociale au Libéria.
C'est l'histoire d'une fille appelée Lema Boi. Elle est née le 1er février 1972 au Libéria, en Afrique. Plus tard, Lema est la première de sa classe. Elle a des amis de toutes les religions.
Après ses 15 ans, elle vit avec sa mère et sa sœur dans un camp de réfugiés. À 17 ans, Lema rencontre un homme. Elle tombe amoureuse, mais très vite, l'homme nommé Daniel devient jaloux et s'énerve. Un jour, il la frappe, donc elle décide de le quitter. Mais c'est à ce moment-là que choisit justement la vie pour lui envoyer une petite surprise.
Chers auditeurs, à votre avis, quelle est la surprise ?
Elle est enceinte. Elle suit les formations de l'UNICEF pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Elle part en mission sur le terrain et quitte enfin son mari.
Plus tard, elle travaille à la réinsertion des anciens enfants soldats. Elle convainc des milliers de femmes à s'unir pour la paix au Liberia. Elle va jusqu'à...
Chers auditeurs, à votre avis, jusqu'où va-t-elle ?
Elle va jusqu'à se mettre nue devant les pires crapules qui dirigent le pays. Le monde entier voit ce qui se passe au Liberia et le président s'enfuit puis sera condamné pour crime contre l'humanité. Leïma remporte le prix Nobel de la paix en 2011.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous trois.
Antonin et Thibaut vont vous parler de Sonita Alizadeh, rappeuse en Iran et en Afghanistan.
Bonjour, ici Thibaut et Sonita Alizadeh. Aujourd'hui, je vais vous interroger sur plusieurs choses.
Allez-y.
Quand êtes-vous née et où ?
Je suis née à Herat, en Afghanistan, en 1996.
Comment s'est déroulée votre enfance ?
J'ai été mariée de force, mais mes parents ont décidé de fuir l'Afghanistan pour partir vers l'Iran, donc le mariage a été annulé. En cours de route, nous avons été interceptés par des talibans. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais considérée comme de la marchandise.
Ah, très bien, je comprends la situation. Ça devait être très compliqué. Et pourquoi avez-vous décidé de faire du rap ?
J'ai décidé de faire du rap car le rap exprime la rage et que j'avais la rage d'être considérée comme une moins que rien.
Très bien, Sonita. Et maintenant, la dernière question. Après, on vous laisse.
Allez-y, je vous écoute.
Quelle a été votre plus grande réussite ?
J'ai publié une vidéo sur YouTube qui a eu beaucoup de succès. J'ai été invitée à venir aux États-Unis pour chanter là-bas, dans un studio, et j'ai aussi appris l'anglais.
Très bien. Attendez, les auditeurs ont une question de dernière minute.
Très bien, je ne suis pas pressée.
Quel impact ce changement a-t-il eu sur votre famille ?
J'ai dû mentir à ma mère pour aller aux États-Unis. Et une fois là-bas, quand j'ai dû lui annoncer au téléphone pour la prévenir, elle m'a raccroché au nez. Au final, elle m'a pardonné plusieurs années plus tard.
Merci beaucoup, Sonita, pour cette interview et à bientôt. C'était Thibaut et Sonita.
C'était super, merci Antonin et Thibaut.
Maintenant, Maïlis et Ella vont vous expliquer l'histoire de Nazi Kalabib, une femme révoltée issue d'une bonne famille en Syrie.
Cette femme qui a failli mourir pour ses valeurs, ça vous parle ?
C'est
Maïlis
et Ella de la 5e Christine de Pizan, et on va vous parler de la BD des culottés de Pénélope Baju, plus particulièrement de Nazi Kalabib. Qu'en as-tu pensé ?
J'ai trouvé cet extrait touchant, car elle s'est battue pour le droit de vote des femmes dans plusieurs pays.
Elle a étudié l'agriculture, elle a créé l'Union des femmes, elle fonde la Société pour l'éveil de Damas afin d'instruire les femmes qui n'en ont pas eu l'opportunité. Trouves-tu ça juste ce qu'a vécu Nazik ?
Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais été prise au sérieux. Elle a failli mourir en répondant à l'appel du ministre de la Défense de Damas.
Quand la Syrie passe sous le mandat français, le ministre, lui, n'était pas d'accord. La petite dame de grande famille prend les armes. Elle parade dans les rues de Damas en uniforme, ce qui est encore un scandale, car c'est une femme et qu'à cette époque c'était mal vu pour les femmes. Peux-tu nous dire dans quel milieu elle est née pour avoir une telle rage et mentalité ?
Cette héroïne est née en 1898 à Damas, dans une riche famille de marchands. Ses parents sont riches, elle mène la belle vie, cours de piano, poney, danse. Mais dès son plus jeune âge, elle va en décider autrement. Elle va manger avec les domestiques et insiste pour travailler au champ.
Je vais vous parler du mari de Nazik. Il s'appelle Mohamed Jamil Bayoum. C'est un homme politique syrien. Il a soutenu Nazik dans ses projets, publié ses livres car elle n'en avait pas vraiment l'opportunité, en l'aidant aussi financièrement.
Devinez quoi ? Elle a adopté 3 filles orphelines et les a poussées à étudier assidûment et à ne pas hésiter à aider les plus faibles.
On vous conseille de la lire. Pour notre part, c'est un grand oui. On espère que vous allez adorer.
Merci les filles.
Paul Robin et Elliot vont vous présenter Tove Jensen, peintre et créatrice des trolls en Finlande.
Bonjour, ici Robin, Paul et Elliot. Aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire de Tove Jensen.
Tove Marika Jensen naît à Helsinki le 9 août 1914. Son père, Victor, est sculpteur et sa mère est illustratrice. Tove écrit son premier livre à l'âge de 13 ans. Elle part ensuite étudier les beaux-arts à Stockholm, Rome et Paris. Tove a du mal à trouver sa place car elle sent que les femmes ne sont pas les bienvenues. Ses camarades de classe arrêtent leurs études pour se consacrer à leur foyer. Elle arrête l'école et fonde un collectif d'artistes. À son retour en Finlande, la Seconde Guerre mondiale éclate. Son frère part se battre et sa meilleure amie juive fuit en Amérique. Tove est traumatisée par les années de guerre. Elle évacue la peur et le désespoir au travers de dessins politiques et en imaginant une famille de paisibles créatures. Ce sont les Moumines, des personnages d'histoire pour enfants.
Elle invente aussi de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages comme Zot et Zezette. Elle transporte avec elle une valise secrète dont personne ne sait ce qu'elle contient. Tove vit une vie cachée avec une femme mariée alors que l'homosexualité est illégale en Finlande. Ses livres sont un succès. Elle déménage dans une tourelle, son rêve. Un journal anglais lui propose de créer des petites BD avec les Moomins. Elle accepte volontiers sans vraiment savoir dans quoi elle se lance. C'est un grand succès mondial. Elle cumule plus de 12 millions de lecteurs partout sur la planète. Elle ne fait plus que des BD et devient très malheureuse. Mais peu de temps après, Walt Disney lui propose de racheter son œuvre. Elle les envoie balader.
Tove est en pleine dépression jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre artiste finnoise, Tuliki Pietila. Elle l'invite à danser. C'est le coup de foudre. Elles ne se quitteront plus jamais. Elles se construisent une petite maison et font des constructions éphémères sur la plage. L'année 1970 est très dure. Tove perd sa mère. Elle se remet à écrire et publie le plus grand livre de sa carrière. Tuliki et elle partent ensuite pour un grand tour du monde. La marque des Moomins se développe encore plus grâce à ses jouets, ses livres, ses films et ses céréales. Tove confie toutes ses histoires et ses personnages à son frère Lars. À partir de ce moment, c'est lui qui écrira les histoires des Moomins. Tove et Tuliki passeront la fin de leur vie à écrire, peindre, fumer et voyager. Tove meurt à 86 ans d'un cancer du poumon et Tuliki à 82 ans. Tove reste une des artistes les plus populaires de Finlande.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Robin, Elliot et Paul sur Radio Anne Frank.
Merci les garçons.
Ensuite, Timéo, Maëlle et Lydie vont vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Cheryl Bridge, athlète aux États-Unis.
Bonjour tout le monde, on va vous présenter Cheryl Bridge. Mais Maëlle, qui est Cheryl Bridge ?
Alors, pour la présenter à nos auditeurs, Cheryl Bridge est née le jour de Noël 1947 aux États-Unis. Elle connaîtra un grand succès dans le monde de l'athlétisme. Et Timéo, comment commence-t-elle à courir ?
Elle commence à courir en tombant un jour sur un article de magazine au sujet d'une nouvelle passion des Australiens, le jogging. Alors un soir, elle se met à courir seule sur la piste déserte de l'école, elle enchaîne les tours et trouve des solutions à ses problèmes. Mais Lydie, quand a-t-elle couru son premier marathon ? On rappelle à nos auditeurs qu'un marathon est une course de 42 km.
Elle a couru son premier marathon en 1971 en participant à celui de Culver City, qu'elle termine en moins de 2h50. C'est un exploit jamais réalisé par les femmes. Maëlle, j'ai une dernière question pour toi. A-t-elle des enfants ?
Oui, elle a une fille nommée Shalan qui a été sacrée médaille de bronze au JO de Pékin en 2008 sur le 10 km.
Pour conclure, au cours de sa carrière, Cheryl Bridge a marqué le monde de l'athlétisme et a lutté pour l'intégration des femmes aux Jeux Olympiques. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous trois.
Enfin, Léonie et Anaëlle vont vous présenter un exposé sur Hedy Lamarr, une actrice et inventrice autrichienne qui a vécu aux États-Unis.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique du Collège Anne Frank.
Je suis Anaëlle Loubier-Chevalier.
Et je suis Léonie Dumessy. Hedy Lamarr,
ou Teddy pour les intimes,
née à Vienne le 9 novembre 1914. Elle est principalement connue pour avoir été une actrice autrichienne.
Vous savez, c'est le pays où sur le drapeau, il y a un aigle étranglé. Hedy devient actrice et fait son premier grand film, Extase, en 1931. Elle a 17 ans.
Dans ce film, elle joue une scène nue, ce qui lui posera des problèmes, notamment avec son père.
La jeune femme est désormais connue de tous. Fritz Mandel tombe sous le charme de
Teddy,
lui fait une cour acharnée, puis finalement, Fritz et Hedy se marient. Fritz est un grand fabricant d'armes du pays. Il est super riche, mais au bout d'un moment...
Il devient possessif.
Il interdit la publication d'Extase et Hedy s'en va.
Son père décède, sa carrière d'actrice se termine ainsi. Après sa séparation...
Avec le gros méchant...
Hedy part pour l'Amérique. Elle rencontre George Antheil.
Moi perso, je lui ferai pas trop confiance.
Elle et lui inventent des objets révolutionnaires pour l'armée, qui ne seront utilisés par celle-ci que des années plus tard.
Le chef de l'armée ne la prend pas au sérieux et lui impose de faire de la propagande afin de récolter de l'argent pour la guerre. Je vais désormais recevoir et interviewer Madame Lamarr pour mieux comprendre le décès d'Hedy en janvier 2000. Bonjour Madame Lamarr, comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Bref, commençons l'interview. Vous souvenez-vous d'Hedy Lamarr ?
Non, qui est-ce ?
Teddy ?
Ah, la petite madame qui faisait de la chirurgie esthétique ! Ah oui, je m'en souviens. Ça vous intéresse ?
J'aimerais que vous nous parliez du jour où elle est morte, la cause et de sa condition de vie.
C'est une petite madame qui vivait en Floride, dans un petit village, et quand je l'emportais avec moi, elle avait le visage tout défiguré par la chirurgie esthétique qu'elle a faite pour cacher ses rides grandissantes. C'était bien triste à regarder. Elle est morte le 19 janvier 2000. Elle voulait absolument vivre jusqu'au siècle prochain. Je l'ai donc emportée lorsqu'elle avait 86 ans dans ma grande bonté de cœur.
Merci pour ces précisions. Bonne fin de journée à vous et à nos auditeurs. Au revoir.
À bientôt.
C'est bon, taisez-vous maintenant.
Joyeux Noël.
Mais ça suffit.
Merci les filles.
Merci à vous tous. C'était super intéressant de découvrir l'histoire de ces femmes culottées. Vous retrouvez peut-être prochainement le groupe Christine de Pizan sur Radio Enfant. À bientôt.
The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.